Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je reçois Nathalie Duplan qui nous propose, une fois n'est pas coutume, un très beau sujet. C'est pour un reportage que je me suis permis de vous inviter ce matin, un reportage paru dans la revue Codex, voilà, qui est en le numéro de printemps, qui est dans les kiosques et dans les librairies actuellement. Un reportage qui m'a beaucoup touché, un pays que j'aime beaucoup, le Liban, les sentinelles de la paix. Vous avez été 3 mois sur place. Vous avez enquêté, vous avez photographié, vous avez rencontré des gens. Qui sont ces sentinelles de la paix ?
Alors, bonjour Sébastien, oui, avec Valérie Rollin, avec qui j'ai fait ce reportage. Donc nous étions pendant 3 mois au Liban pour suivre à la fois Fouad Abou Nader, qui est le porteur de ce projet de sentinelle de la paix. Il ne l'appelle pas comme ça, bien sûr, mais ça revient à ça. Pourquoi ? Parce que le but de l'association qui l'a fondée, qui s'appelle Nawraj, c'est de fixer les populations chrétiennes un petit peu partout au Liban, là où elles se trouvent, et notamment sur les zones frontalières, qui sont des zones délaissées depuis déjà des années, et de fixer ces populations pour qu'elles puissent jouer leur rôle de pont entre toutes les communautés, puisque, comme vous le savez, le Liban compte pas moins de 18 confessions, donc à la fois musulmans sunnites, musulmans chiites, druzes, chrétiens syriaques, chrétiens chaldéens, chrétiens maronites, etc. Et donc c'est vrai que le Liban, qui a cette spécificité d'être un pays avec toute cette composante, ce qu'on dirait aujourd'hui le vivre ensemble et la coexistence, même s'il y a des problèmes parfois, même s'il y a des difficultés, mais ça ne peut se faire, cette coexistence ne peut se faire que grâce à la présence des chrétiens. Parce que on sait très bien que, par exemple, les villages, il y a des villages mixtes, beaucoup de villages mixtes, mais ce sont toujours des villages mixtes chrétiens sunnites, chrétiens druzes, chrétiens chiites, mais jamais sunnites chiites ou bien druzes sunnites ou druzes chiites. Donc, si les chrétiens partaient, et ils partent, on le sait, soit pour aller à Beyrouth, parce qu'il n'y a pas de travail dans les zones frontalières, parce que la vie y est plus difficile, parce que les universités y ont moins bonne réputation, soit encore plus loin, donc en Occident, où, eh bien, s'il n'y a plus cette présence chrétienne, il n'y a plus cette coexistence, il n'y a plus le Liban. Parce que ce qui est spécifique du Liban, c'est ça, c'est ce pays multiconfessionnel, même si le président est traditionnellement maronite, mais le premier ministre est sunnite et le président de la chambre est chiite, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe nulle part ailleurs en fait, d'avoir comme ça, dans un pays, toutes ces forces, toutes ces communautés qui travaillent ensemble. Alors encore une fois, qu'il y ait des difficultés, on ne le nie pas, mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre.
Au niveau de la géographie, nous connaissons Beyrouth, nous connaissons la montagne libanaise, la montagne oui. maronite, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres poches de communautés chrétiennes installées dans des zones où on ne les attend pas, où on ne le sait pas peut-être. Je pense à la Bekaa, au Chouf.
En fait, il y a des chrétiens partout. C'est vrai qu'on ne le sait pas et c'est vrai qu'on se focalise très souvent sur cette montagne libanaise parce qu'elle a été, de par sa géographie, le lieu où, puisque finalement, les communautés qui sont venues au Liban se sont toujours réfugiées, ont toutes été persécutées à un moment donné, y compris les maronites. Il y avait des maronites sur place, mais il y a eu un grand apport de maronites venus de Syrie, puisque Saint Maroun, qui les a fondés un peu malgré lui, venait de Syrie. Et donc, quand il y a eu certaines persécutions, ils sont venus dans cette montagne libanaise. Mais les autres communautés aussi, les druzes se sont réfugiés lorsqu'ils ont été persécutés, les chiites, enfin tout le monde. Donc, on connaît la montagne libanaise dont on sait qu'elle est maronite. Les maronites ne sont pas les seuls chrétiens. Il y a beaucoup d'orthodoxes. Il y a des melkites, donc grec-catholique, pour le dire un peu schématiquement, puisque ce n'est pas vraiment le terme qu'ils aiment qu'on utilise. Il y a des Syriaques, il y a des Arméniens. Donc, il y a toutes ces communautés-là. Et donc, c'est vrai que on connaît la montagne maronite parce que, par définition, elle est maronite. Mais si on va plus au sud, ne serait-ce que à la frontière avec Israël, on a tout le long de la frontière d'autres villages qui peuvent être maronites, qui peuvent être melkites, qui peuvent être orthodoxes. Si on remonte, puisque en fait le Liban a une frontière de plus de 300 km avec la Syrie, donc au nord et à l'est, et au sud, sud-sud-est, avec Israël. Et puis après, il y a toute...
Dans la région de Nabati aussi.
Exactement, où il y a une forte concentration de chiites, mais où il y a des chrétiens.
On vous sent passionné par le Liban, à vous entendre.
C'est un pays passionnant. C'est un pays passionnant. Il y a tous ces gens qui se croisent, qui vivent ensemble, encore une fois, avec des périodes où c'est plus difficile, c'est vrai. Mais... comme le dit Mgr Mazloum, qu'on cite dans cet article, qui est vicaire patriarcal, donc pour le patriarcat maronite, c'est vrai que la période est difficile, mais en fait ce n'est pas la période la pire qu'aient connue les chrétiens au Liban. C'est vrai que dans la région, la situation est très dure, mais il y a eu des périodes bien pires. Et Mgr Mazloum le dit avec beaucoup d'humour, il dit « nous ne sommes pas en voie d'extinction, nous avons un rôle à jouer ». Et c'est ce rôle-là que Fouad Abounader a voulu un petit peu, il a voulu insister là-dessus parce que c'est vrai qu'on regarde souvent et un peu trop, notamment en Occident, un peu trop les chrétiens comme, voilà, est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce que ça y est, c'est fini? Il va plus y en avoir? Est-ce qu'on les, ils sont face à la persécution? Encore une fois, il y a des difficultés. Mais c'est vrai que ces villages dont on parle et d'où les chrétiens partent, ils partent à la fois parce que, bien sûr, dans certains cas, ils se sentent en danger. Pourquoi ? Parce que la Beka dont vous parliez, juste en face, vous avez une ligne de front avec Daesh. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une intervention de l'armée pour telle ou telle raison. Il y a eu des attaques, il y a eu des attentats. Donc, il y a cette insécurité. Mais il y a aussi ce qu'on trouve dans la campagne française, à savoir... l'exode rural, parce que ce ne sont pas des zones qui ont été suffisamment développées. Donc les gens ne trouvent pas de travail, les gens n'arrivent pas à se soigner. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la Beka Nord, eh bien, vous devez aller éventuellement à Baalbek, qui est plus au sud, pour vous soigner. Ça fait une heure de route, un peu plus. S'il y a de la neige, ce sont quand même des climats très chauds l'été quand on est au bord de la mer. Mais dans la montagne et dans la Beka, c'est un climat qui est très rude. Et donc, ce n'est pas facile de se déplacer comme ça.
Nathalie Duplan, nous reviendrons au corps de votre sujet, les sentinelles de la paix. Je voudrais juste vous poser une petite question par rapport à ce que vous venez de nous confier. On vous sent mal à l'aise avec l'aspect victimisation qui a été mis en avant depuis toutes ces dernières années par rapport aux chrétiens d'Orient. Comment eux le voient, cet aspect-là ?
C'est-à-dire que ils sont parfois eux-mêmes... il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent, voilà, on ne nous aide pas, on ne fait rien pour nous, parce qu'ils sont dans des zones où ils aimeraient qu'on leur donne du travail, avoir des écoles. En principe, les écoles primaires existent, mais les universités, or on sait que chez les chrétiens, c'est très important de donner une éducation digne de ce nom, la meilleure éducation possible, de manière à pouvoir s'ouvrir les portes d'une carrière qui soit véritablement une carrière qui permette d'avoir une famille, de subvenir aux besoins. Donc c'est très important pour les chrétiens. Et donc c'est vrai que cette victimisation, comme vous dites, je suis mal à l'aise parce que finalement en Occident on ne parle des chrétiens d'Orient que lorsque c'est pour dire qu'ils sont en danger, qu'ils vont disparaître, ce qui ne mobilise pas énormément, enfin qui peut mobiliser, oui, pour aller aider. Mais, et d'ailleurs les patriarches, tous patriarches confondus, ont tendance à le dire, à dire mais nous avons un rôle à jouer, nous avons une mission, nous ne devons pas être réduits à ces victimes. Nous avons un rôle. Et donc, concrètement, au Liban, ce rôle qui est essentiel, c'est d'être les garants de la paix. Les chrétiens sont les garants de la paix au Liban.
Les chrétiens sont la figure de proue du vivre ensemble, écrivez-vous. Il n'y a pas de village mixte autre qu'avec les chrétiens. Les chrétiens sont le ciment du Liban, un facteur de stabilité, martèle le docteur Fouad Abou Nader. Chef courageux et respecté durant la guerre, il est bien placé pour évaluer les dangers qui guettent ses coreligionnaires dans un Proche-Orient à feu et à sang. Il est catégorique. Les chrétiens ne sont pas directement menacés par le conflit sunnito-chiite, même s'ils peuvent en subir des conséquences. Qui est ce personnage ?
Alors, Fouad Abou Nader, c'est un personnage très intéressant, d'abord parce que il est le neveu de Bachir Gemayel, donc un des présidents du Liban et le président martyr du Liban,
assassiné.
Qui a été assassiné, donc ça va faire exactement 25 ans en septembre de cette année. Il est un des chefs emblématiques parce qu'on l'a retrouvé pour ceux qui s'intéressent à la guerre du Liban, sur toutes les grandes batailles. Et c'est vraiment un héros. Il est salué par tous les combattants de son camp, mais également pour les gens d'en face.
Une réputation de probité ?
Une réputation de probité qui n'est pas usurpée. Et vraiment quelqu'un qui a à cœur de ne pas recommettre les erreurs du passé. Parce que lorsqu'il a combattu, il a bien vu que, sans remettre en cause ce qu'il a dû faire, mais aujourd'hui, son leitmotiv, c'est de dire hors de question que des milices se créent à nouveau. Si jamais il y a un problème sécuritaire, il faut travailler main dans la main avec l'armée.
Avec l'armée libanaise.
Avec l'armée libanaise. L'armée libanaise, c'est une gageure. Parce que l'armée libanaise, ça veut dire des sunnites, des chiites et des chrétiens qui servent dans cette armée. Or, le problème de l'armée libanaise aujourd'hui, c'est que les sunnites s'y engagent pour la troupe. La troupe de l'armée libanaise est principalement sunnites. On imagine bien que quand on envoie l'armée libanaise dans des régions où il y a une forte concentration de sunnites, évidemment que la troupe a des problèmes pour tirer sur ses camarades, sur ses frères. Donc l'état-major, les chrétiens s'y engagent, les chiites s'y engagent aussi, dans une moindre mesure les chiites. Surtout quand, pour ce qui est de la troupe, les chiites préfèrent rejoindre les rangs du Hezbollah que d'aller dans l'armée. Et les chrétiens, si je vous disais que par exemple à Ras Baalbek, qui est un village près de la frontière syrienne, dans la Bekaa, il y a une milice qui s'appelle les résistants, ou je ne sais plus quel est le terme, le groupe des résistants, un sous-groupe du Hezbollah, donc une milice chiite, il y a 70 chrétiens qui se sont enrôlés dans cette milice lorsqu'il y a eu quelques accrochages, parce qu'ils se sont dit qu'ils seraient mieux défendus et qu'ils feraient mieux le travail que s'ils allaient dans l'armée libanaise. Donc Fouad Abou Nader, tout en travaillant avec eux, tout en discutant avec ces gens-là, explique que voilà, s'il y a un problème, il faut surtout faire le lien avec l'armée. Et ce qui est très intéressant dans l'association qui est la sienne, c'est l'approche globale qu'il a, à savoir l'aspect sécuritaire, l'aspect développement,
donc
économique,
l'aspect économique, voilà.
L'aspect éducatif, développer les écoles, ouvrir des dispensaires, ouvrir des hôpitaux, peut-être pas avec tout l'équipement, mais au moins pour pouvoir stabiliser les patients. Comme il dit, sur certains attentats, les blessés, on les aurait mieux soignés si on avait eu ne serait-ce qu'un petit hôpital ou un dispensaire dans certaines régions éloignées pour prodiguer les premiers soins, faire les premiers soins. Donc c'est tout cet aspect qu'il prend en considération et c'est ça qui est très intéressant.
Est-ce que nous ne pourrions pas résumer le miracle libanais, cette stabilité finalement au milieu d'un chaos ? Hein. Soyons francs. Justement, par ce genre de personnalités qui ont elles-mêmes eu des responsabilités militaires pendant la guerre civile et qui se trouvent maintenant à des postes de pouvoir ou des postes d'influence peut-être et qui prennent ce genre d'initiative.
Mais surtout qui ont vraiment envie, qui ont à cœur de continuer. En fait, Fouad Abou Nader, comme certains combattants, comme beaucoup de combattants, se sont engagés au service de leur pays.
Mais alors, parce qu'ils ont connu la guerre.
Ils ont connu la guerre, mais même quand ils ont fait la guerre, certains d'entre eux, il y a de tout évidemment, et surtout dans une guerre qui dure 15 ans, malheureusement, certains bons sentiments et certaines causes nobles, parfois dévient, il faut dire les choses comme elles sont. Mais lui fait quand même partie de ces gens-là qui se sont engagés pour servir leur pays. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la continuité. Il continue à n'avoir qu'une idée en tête, son pays, le servir. Son pays, à savoir 10 452 km², comme disait son oncle Bachir Gemayel, c'est-à-dire pas un de moins, pas un de plus, mais pas un de moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette thèse qui semble abandonnée aujourd'hui, mais de certains qui n'étaient pas contre d'avoir un Liban qui ne soit que chrétien. Donc une petite enclave. Ce n'est pas du tout son objectif. Lui, il veut un Liban entier, dans ses frontières, avec toutes les composantes de la population libanaise, à savoir chrétienne, mais musulmane sunnite, musulmane chiite, druze, etc. C'est ce Liban-là, c'est pour ce Liban-là qu'il a combattu, et c'est pour ce Liban-là qu'il continue à combattre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, lui, il est certes maronite, mais quand il a voulu lancer Al-Nawraj... C'est son association, qui veut dire batteuse, en fait. Mmh. C'est un ancien mot que les gens ne connaissent plus. En fait, ce sont les batteuses pour mettre en avant ce développement économique. Hein. Et donc, lui, il a lancé ça, mais avec toutes les autres églises, avec tout le monde, c'est-à-dire avec le pasteur Badr, qui est vraiment quelqu'un qui a un poids dans son association, tout en étant peut-être à la tête de la communauté la moins représentée, parce qu'il y a très peu de protestants en comparaison. Il est tous allés les voir, mais non seulement ce côté œcuménique, mais Fouad Abou Nader est aussi allé voir toutes les autres communautés, à savoir les sunnites, les chiites, les druzes, en leur disant, voilà, notre objectif, c'est de fixer les populations chrétiennes là où elles sont, c'est-à-dire les aider à se développer, creuser un puits s'il faut creuser un puits pour irriguer des terres, etc., construire une église pour que les chrétiens arrêtent de partir, parce que il se passe ce qui se passe aussi dans d'autres pays de la région. Les chrétiens qui ont tendance à partir, à vendre leurs terres parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus d'avenir ici, il suffit qu'ils voient, et on donne l'exemple dans l'article avec deux prêtres, un maronite et un melkite, ils ont construit une église au milieu de nulle part, dans une région où ils sont entourés de musulmans. Mais quand les chrétiens ont vu qu'il y avait un prêtre assez fou pour construire une église là, eh bien, ils se sont dit, ben, nous, on part plus. Donc, ils ont commencé à construire eux aussi leur maison, à ne plus vendre leur terrain. Et donc, ce sont des petites choses comme ça. Ça commence comme ça. Et puis, ça se développe. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, le développement, quand il est là pour tout le monde. Donc évidemment que quand Fouad Abou Nader ou les gens qui travaillent avec lui sont allés voir les sunnites, sont allés voir les chiites et leur ont dit « Voilà, nous on veut fixer les populations chrétiennes. Est-ce que vous voyez un inconvénient ?»
Quelle a été la réaction des autorités ?
Tout le monde a dit, alors les sunnites ont dit « Formidable, parce que nous ne voulons pas nous trouver seuls face à face avec les chiites. » Les chiites ont dit « Surtout restez. » Nous rêvons que de ça, que vous soyez là. Parce que si vous êtes là, nous sommes sûrs de pouvoir continuer à parler aux sunnites. Parce que nous parlons aux sunnites à travers vous. C'est pas nous qui allons parler directement avec les sunnites. Parce qu'en fait, et c'est ce que...
Vous voulez dire qu'ils sont une communauté intermédiaire, finalement, qui permet un dialogue entre les communautés qui ne se parleraient plus, peut-être?
C'est-à-dire qu'on sait que, malheureusement, la région est déchirée par un affrontement entre musulmans sunnites et musulmans chiites. Ce n'est pas nouveau, mais ça a pris une proportion et une ampleur assez impressionnante. Et donc, laisser des musulmans sunnites en face de musulmans chiites, concrètement, à Tripoli, où il y a, enfin dans d'autres villes, mais une des grandes villes du nord où il y a une rue adjacente avec, par exemple, des réfugiés syriens soutenant le régime et d'autres qui sont contre le régime, eh bien, il y a des clashs régulièrement.
Nathalie Duplan, dernière question par rapport à ce problème des réfugiés. Est-ce que ce déséquilibre démographique ne risque pas justement de bouleverser cet équilibre entre les communautés?
Tout à fait, parce que si on veut parler de chiffres, même s'ils sont toujours un peu aléatoires, mais il y a à peu près 4 millions de Libanais, d'accord, de réfugiés syriens officiellement inscrits au HCR, donc au Haut Commissariat aux réfugiés, 1 200 000, mais vraisemblablement 1,5 million, 2 millions, parce que certains ont peur de se faire enregistrer. Donc, c'est phénoménal. C'est comme si en France, on avait 20 millions de réfugiés syriens. Ces réfugiés syriens, ils sont à 99,9% sunnites. Donc évidemment que la communauté sunnite libanaise, ça la dérange moins, justement, que les chiites ou que les chrétiens. Parce qu'on sait bien que le Liban vit de cet équilibre. Et l'équilibre, la répartition, comme je vous disais, c'était un président maronite, un premier ministre sunnite et le président de la chambre chiite.
Nous étions avec Nathalie Duplan ce matin. Merci Nathalie.
Merci à vous Sébastien.
Pour être venue jusqu'au micro de Chrétien d'Orient pour Les Sentinelles de la Paix, un très beau reportage qui est paru et qui est disponible en ce moment dans la revue Codex. On appelle ça un MOOC.
Voilà, c'est ça.
Dans les librairies et les kiosques. Je remercie Dany Journaud, Anne-Catherine Lochard et Manuel Couturier pour la réalisation de cette émission. Et nous retrouvons maintenant sur France Culture le service protestant. Merci.